Merci d'être encore avec nous dans cette deuxième partie d'émission. Et nous sommes ravis d'accueillir Stéphanie Delestrais. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes avec nous ce soir pour parler d'un très 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 beau livre qui s'appelle « Je prends mon souffle » parce que son seul défaut, c'est peut-être un titre un peu long. Le dictionnaire des personnages populaires de la littérature des 19e et 20e siècles, c'est pas terminé, par 100 écrivains d'aujourd'hui. Et ce beau dictionnaire, donc vous l'avez dirigé, on va expliquer comment. Donc, vous êtes mis à deux pour ce beau travail avec Agar De Santi. Donc, une petite brève présentation. Vous êtes spécialiste de littérature, doctoresse lettres. Je crois qu'on peut dire que vous êtes une passionnée de la littérature populaire.
Oui, tout à fait.
En général, du roman noir en particulier. Et vous êtes actuellement directrice de collection chez Baleine.
Oui.
Reprenant en gros le job de Jean-Bernard Pouy, puisque vous vous occupez de la collection du Poulpe.
Exactement, avec sa bénédiction même.
Oh ben la bénédiction de Jean-Bernard, c'est quelque chose, mes créants comme il est. Donc, comment vous est venue cette idée, on va en parler longuement, d'abord d'un dictionnaire des personnages populaires?
Alors c'est une idée qui a mûri. En fait, c'est une idée qui est venue un peu comme ça pendant que je rédigeais ma thèse en littérature comparée. Et à l'époque, Agar De Santi, que je connais depuis très longtemps parce qu'on était au lycée ensemble, rédigeait elle aussi sa thèse. Voilà. Alors elle sur les auteurs du 19e, Hugo, Dumas et Eugène Sue, moi sur des auteurs du 20e et des premiers auteurs de romans noirs américains et français. Et je sais plus très exactement, parce qu'il y a toujours une recréation a posteriori de ce genre de moment, mais en tout cas, moi j'étais assez frustrée de ce que je pouvais trouver dans les ouvrages un peu généraux, ou en tout cas, ou les compilations entre guillemets, sur les personnages justement de la littérature populaire, qui sont des personnages que souvent les gens connaissent très bien, n'ont pas nécessairement lu, enfin on connaît leur nom, mais on n'a pas toujours lu leurs aventures qui sont un peu fleuves.
Oui, c'est souvent des gros pavés.
Ouais, et qui sont en plus pas toujours très bien réédités, enfin bon, voilà, et il y avait assez peu d'informations, voilà, sur Rocambole, Zygomart, en fait toute cette palanquée de personnages qui ont précédé la naissance du roman policier et du roman noir. Et voilà, et c'est parti de cette idée-là. Quelques années après, on en a rediscuté, enfin je sais plus, un an ou deux après, on en a un jour rediscuté en se disant qu'il y avait décidément que l'énorme dictionnaire de Lafont et Bompiani, mais qui a été fait dans les années 60 et qui a, je crois, pas été remis à jour depuis, dans lequel il y a énormément de choses, mais dans lequel il manque aussi voilà, beaucoup de personnages, enfin en tout cas à notre goût, à Agar et à moi, et on s'est on a commencé à écrire ce projet, à l'imaginer, à le présenter à un éditeur qui est donc Jean-Christophe Brochier,
qui œuvre au seuil, voilà.
Qui a trouvé l'idée formidable, qui est tombé des nues quand on lui a dit qu'en fait il y avait quand même très très peu de choses. Alors il existe d'autres dictionnaires des personnages, mais très souvent en fait c'est des dictionnaires thématiques. Donc c'est le dictionnaire des personnages de Proust, des personnages de Zola, des personnages de la comédie humaine, mais un dictionnaire ou des dictionnaires amoureux. Il y a eu aussi un dictionnaire amoureux, donc. Ouais. Une sélection un peu assez subjective et tout à fait judicieuse, hein, mais je me souviens plus le nom de l'auteur. Je me demande si c'est pas Covin. Donc, mais peut-être que je me trompe. Faudrait que je laisse soin aux auditeurs de vérifier. Il y avait assez peu d'ouvrages avec une prétention sérieuse. Voilà.
Alors. L'excellente idée, vraiment, je vais m'expliquer une minute sur ça parce que je trouve que là où on a affaire vraiment à un dictionnaire aussi amoureux parce que vivant et parce que passionné et passionnant, c'est que vous avez demandé à 100 écrivains, enfin pas 100 écrivains, pardon, 100 personnalités, journalistes, directeurs de collection, 100 personnes qui connaissent bien, de parler d'un de ces personnages. Donc, c'est pour ça que ce titre est un peu long, hein. C'est 100 écrivains d'aujourd'hui qui parlent des personnages d'hier, hein, et des personnages plus actuels, ce qui donne vraiment un ton passionné, de l'humour, ce qui donne un rythme et des tons très différents. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? Ça doit pas être de la tarte pour parler comme ça.
Non, alors ça a été d'un point de vue purement pratique, ça a été un peu compliqué. L'idée de confier ces personnages de la littérature populaire à des auteurs contemporains ou des amoureux des lettres, on va dire, c'était justement pour à la fois, on avait envie d'un dictionnaire dans lequel il y ait des notices sur les personnages qui soient un peu techniques, on va dire, avec des informations comme celles qu'on est censé trouver dans un dictionnaire, et on n'avait absolument pas envie d'un dictionnaire académique triste et ennuyeux comme souvent peuvent le faire les universitaires, même si c'est pas systématique, mais voilà, on voulait quand même quelque chose qui soit ludique et qui donne envie de lire. Voilà, on avait vraiment envie de ça, de donner envie de lire, et finalement l'idée est venue assez simplement de se dire que ceux qui aujourd'hui portaient les personnages d'hier, mais qui sont toujours très présents, c'était toujours les auteurs par tout le système d'intertexte, de référence, voilà. Et on s'est dit que c'était une manière de passer de passer le relais, en quelque sorte, que de leur proposer d'écrire un petit texte, parfois un peu sous contrainte, parce qu'on leur avait imposé quelques éléments de... il y avait quelques figures imposées, pas beaucoup, mais un petit peu, et donc de leur demander de s'emparer de ce personnage pendant, je sais plus, 3 ou 4 feuillets, enfin, certains étaient plus bavards que d'autres, et c'est vrai que le résultat a été... alors, bon, après, sur les détails techniques de l'organisation, ça a été extrêmement compliqué, parce qu'on s'est demandé... D'abord, on a proposé, en fait, aux auteurs, on leur proposait 2 ou 3 personnages.
Mais c'était ma question suivante. Est-ce que vous leur avez imposé le personnage ou c'est leur coup de cœur?
Non, on a rarement imposé, parce que parfois on se trompait dans ce qu'on suggérait. C'est arrivé, c'est-à-dire qu'on a contacté des auteurs en leur suggérant 2 ou 3 personnages auxquels on avait pensé pour eux, et puis ils nous ont répondu la plupart du temps. Enfin, presque tous les auteurs qu'on a contactés ont répondu présent, mais parfois en nous disant l'idée est super, l'idée est sublime, on a vraiment très envie de participer, mais là les personnages que vous m'avez proposés, ça me dit rien du tout. Et dans ces cas-là, on leur communiquait la liste des personnages qui étaient encore disponibles, et ils choisissaient dans la liste. Mais on voulait au moins faire cet effort de réfléchir à des personnages qui étaient susceptibles de leur parler. Donc ça est vrai que pour une centaine d'auteurs, ça a été compliqué de tomber juste à chaque fois.
Oui, j'imagine. Oui, mais ceci dit, il y a des choix très judicieux, puisque on parlait dans la première partie de l'émission de Polar Polaire. On connaît Björn Larsson, et qui a écrit un livre sur Long John Silver, qui s'appelle Long John Silver, et donc il a fait l'affiche de Long John Silver, personnage. Donc, il écrit en français, d'ailleurs. Vous avez des problèmes de traduction? J'ai vu, il y a Giancarlo Di Cataldo, il y a Paco Ignacio Taibo. Ensuite, vous avez fait traduire ou... Enfin, oui, forcément.
Oui, on a fait traduire. Mais Larsson a écrit en français.
Ouais. Larsson écrit en français, oui, c'est bien ce qui, c'est bien ce qui me semblait.
Donc, on a fait quelques petites corrections.
Alors, c'est très, très éclectique. C'est vrai que, je dirais presque bêtement, moi, quand j'ai ouvert ce dictionnaire, je m'attendais à trouver des êtres humains. Alors oui, on a des êtres humains, on a Belle Amie de Maupassant qui côtoie Fifi Brin d'Acier, mais on a aussi, à côté de Gervaise et du Père Goriot, on a Cro-Blanc et Flicka, dignes représentants de l'agent canine. Comment vous avez imposé d'abord 100, il doit y en avoir un petit peu plus, mais vous êtes cantonné à 100, ce qui fait déjà un bel ouvrage. Comment vous avez choisi parmi, par exemple, il y a aussi le Club des 5, donc Cro-Blanc, Flicka, moi au départ ça m'a étonné, je dois dire.
Eh ben d'abord, on a fait une grande, grande liste, chacun de notre côté. Enfin, Agar de son côté, moi du bien, Jean-Christophe Prochier du sien. On a mis nos listes en commun. Il y avait plein de... Enfin, alors, il y avait des personnages, parfois, pour lesquels... Enfin, moi, qui me semblaient être vraiment des personnages très connus du 19e siècle. Et puis quand je donnais leur nom, mes deux comparses me regardaient avec des points d'interrogation dans les yeux en disant, mais qui est-ce donc? Donc, voilà. Donc, ceux-là, on les a enlevés assez naturellement. Puis, on a gardé une liste où il devait y avoir à peu près 150 personnages. Et c'est dans cette liste qu'on a pioché pour proposer aux auteurs. Donc, 100 auteurs, c'était, on va dire, il fallait s'arrêter à un, voilà, il fallait s'arrêter à un moment. 100, ça nous paraissait bien. Il y a aussi des questions.
Ben, je suppose qu'il y a une question de pagination et de reliure. Et on ne peut pas avoir un ouvrage comme ça qui devienne démesuré non plus après.
Oui, après, il y avait des questions matérielles. Alors, d'une part, en termes de budget, ça, c'est une chose. Et puis après, il fallait. On voulait aussi on voulait que le livre ait malgré tout un prix accessible. Alors, il est certes un peu cher parce que c'est un dictionnaire et que il est, on va dire, c'est un basique, on peut le garder dans sa bibliothèque assez longtemps. Mais on voulait que ça soit, voilà, on voulait que ça soit assez accessible. On pouvait pas se permettre. Donc après, il y a des coûts de fabrication. Enfin, il y a tout un tas de données qui rentrent en ligne de compte et qui font que, voilà. Et puis une centaine pour commencer, ça nous semblait déjà beaucoup. Hein.
Oui, c'est sûr. Et pour organiser tout, c'est évident que ça ne doit pas être évident. Pour préciser pour nos auditeurs, donc c'est un livre qui est à moins de 30 euros et c'est vraiment déjà c'est beau. La couverture est belle, elle flash bien. Un petit peu d'ailleurs, on retrouve ces couvertures de qu'on imaginait en fin du 19e siècle avec ces caractères dorés.
Un peu Jules Verne.
Un peu Jules Verne, voilà, les éditions de Jules Verne. Donc on va revenir un petit peu au fond. Il me semble que ça vous intéresse particulièrement de parler de la littérature par le biais des personnages. Il me semble que c'est une chose importante pour vous en tant que spécialiste de la littérature.
Oui, moi c'est un. J'avoue que j'ai un amour particulier de la littérature populaire parce que je trouve que elle a fait beaucoup vivre. Enfin, parce qu'elle donne une grosse place à l'aventure, aux personnages, aux rencontres. Alors c'est pas vrai que de la littérature populaire, mais c'est très symptomatique dans la littérature populaire. Et elle a donné naissance à une multitude de personnages qui ensuite ont marqué les esprits un peu diversement, mais il y a des termes qu'on continue d'utiliser sans même se souvenir qu'à l'origine ce sont des noms de personnages, c'est-à-dire que Rocambole qui donne rocambolesque, Monsieur Pipelet qui est un personnage d'Hugo et qui donne un jour la pipelette pour d'abord la gardienne d'immeuble et puis ensuite, enfin voilà, qui colporte
Quasimodo, Rastignac, qu'on utilise alors que les gens n'ont jamais lu ces livres en général, souvent.
Oui, voilà, c'est assez fréquent. Alors là, quand on s'est posé la question de savoir ce que c'était que la notion populaire appliquée à la littérature aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce que c'est que la littérature populaire? Ça a été assez complexe à résoudre parce qu'il y a des universitaires qui s'étripent là-dessus depuis des années, des années, on va dire.
Oui, je pense. Oui.
Que les définitions.
Ceci dit, toujours... les universitaires sont formés pour ça, je trouve, s'étriper.
Pour s'étriper?
Oui, souvent. c'est une caractéristique de l'universitaire français.
Donc, en fait, voilà, la réflexion, c'est est-ce que le sujet doit être le peuple? Est-ce que l'auteur doit être issu du peuple? Est-ce que c'est le destinataire du livre, à savoir le lecteur qui doit être, qui doit appartenir au peuple? Qu'est-ce que c'est que le peuple aujourd'hui? Enfin, c'est des questions qu'on sait, sur lesquelles on a beaucoup travaillé pour en arriver finalement à cette conclusion assez simple. C'est que les personnages populaires aujourd'hui, c'est ceux qui nous touchent, c'est ceux qu'on connaît encore, bien que pour certains, ils aient plus de 100 ans d'existence. Et Emma Bovary ou les personnages de Stendhal ne sont pas des personnages populaires. Okay. Du tout. Ils n'appartenaient pas à la littérature populaire de leur époque. Au contraire, c'était des auteurs qui étaient vraiment qui faisaient partie d'un milieu littéraire très.
Qui faisaient partie d'une élite quand même.
Pardon ?
Qui faisaient partie d'une élite littéraire.
Oui, qui faisaient partie d'une élite, tout à fait. Mais aujourd'hui, grâce à l'école, tout le monde connaît Emma Bovary et Julien Sorel. pour prendre que deux exemples.
Je ne suis pas aussi persuadée que vous que tout le monde connaît Julien Sorel et Emma Bovary, mais j'espère que ça fait partie d'un petit coin de notre savoir. J'espère vraiment.
Oh, ils sont encore dans les programmes au moins. Enfin, on va dire que pour les élèves qui vont jusqu'à la première ou la terminale, ça fait encore partie des programmes du bac. Donc après qu'ils l'apprécient, c'est encore une autre histoire. Mais mais enfin, ils en ont entendu. Voilà, ils en ont entendu parler. Et puis très souvent, il y a les adaptations cinématographiques ou télévisuelles qui ont beaucoup porté la popularité des personnages. Donc on a pu, par exemple, Belphégor est un personnage qui est resté, en tout cas au moins pour une certaine partie de la population des lecteurs. Belphégor est un personnage qui est encore connu, mais finalement qui est connu plus grâce à l'adaptation télé des années 60, magnifique. Mmh, tout à fait, oui. Que pour la brillance de son récit original, parce que pour l'avoir relu, enfin lu d'ailleurs, pas relu, mais lu, j'avoue que j'ai été assez, j'ai été assez surprise de trouver un récit qui nous fait sourire aujourd'hui vraiment, quoi, qu'on pourrait faire lire à des enfants de 7 ans sans qu'ils aient la moindre inquiétude.
C'est vrai que parler plus des personnages, c'est peut-être plus, on va dire, moderne, parce que c'est vrai qu'il y a certaines histoires qui paraissent maintenant, on va dire, pour être gentil, un peu désuètes, quand même, dans ces livres-là. Alors, le temps passe, on n'a plus beaucoup de temps. Moi, un personnage que je connaissais pas du tout, c'est celui que vous êtes réservé. Vous êtes réservé le docteur Cornelius. Alors, parlez-nous un peu de ce personnage.
Alors Gustave Le Rouge déjà est un personnage un écrivain très très étonnant, très prolifique et qui a été extrêmement engagé et qui a écrit à la fin du 19e début du 20e tout un tas de romans, La conspiration des milliardaires, enfin tout un tas de romans incroyablement visionnaires et toujours très drôles et enfin en tout cas avec une distance ironique et humoristique qui font qu'on peut le lire aujourd'hui sans trouver que c'est complètement daté. Et le docteur Cornelius est un de ces premiers génies criminels, génies du mal, qui transplante le visage d'un richissime héritier sur un autre richissime héritier, mais
la première grève du visage.
Non mais alors il y a tout un tas de et il est en fait le docteur Cornelius quand il n'est pas en train de donner la main à toute une clique d'abominables brigands qu'il dirige et domine a un cabinet aux États-Unis de chirurgie esthétique en 1905 je crois ou 7. Voilà, donc je suis tombée de ma chaise en fait en découvrant ça, que déjà à cette époque il y avait des gens qui s'inquiétaient de leur physique au point de faire intervenir un chirurgien. Bon, c'est une thématique qui était finalement assez fantasmatique à l'époque, qui s'est développée après la Première Guerre mondiale à cause des gueules cassées de la Première Guerre, parce que là la chirurgie vraiment qu'on appelle
réparatrice, on va dire,
ouais, réparatrice a commencé à faire des progrès, mais il y avait déjà eu quelques petites tentatives dont se sont emparés les romanciers en les investissant de leur fantasme de romancier.
Eh bien, Stéphanie Delestré, on parlerait des 100 personnages avec autant d'enthousiasme que vous venez de le faire, mais malheureusement, le temps qui nous était imparti, phrase consacrée, est maintenant terminé. Donc, je vais rappeler le titre, une très jolie façon de découvrir la littérature, le dictionnaire des personnages populaires de la littérature. Donc, dictionnaire dirigé par Stéphanie Delestré et Agar de Santi. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir.